Merci, Madame la Présidente. J'aimerais faire un commentaire d'ordre général également. Je pense que c'est un petit peu trop en demander. Il faudra examiner cette question de près, notamment s'il concerne le libellé dans ce paragraphe. Les paragraphes du plan d'action de Durban, notamment dans le paragraphe 4 et ce jusqu'au paragraphe 14, font état de beaucoup de ces notions, mais dans des termes qui étaient plus succincts, notamment un certain nombre de droits et lorsqu'on demande aux États d'agir en particulier. Donc c'est un problème qui se pose du 4 au 14, de l'article 4 à l'article 14. Nous allons donc devoir examiner avec soin cette question. Il faudra que vous nous donniez un peu de temps à cet effet. Peut-être pourrions-nous ainsi être plus succincts dans le libellé. Pour ce qui est de la question des droits collectifs, je comprends le problème que cela pose à certains États. Cela étant dit, j'aimerais apporter une explication. En Afrique et dans de nombreux autres pays du monde, les droits collectifs ne sont pas une question de choix par rapport aux droits individuels. Ce n'est pas et ou. Il y a des royaumes, il y a des communautés qui sont perçues de manière collective dans le cadre de leurs responsabilités. Notaires dans de nombreuses parties de notre pays, par exemple, relèvent d'une gestion collective, notamment par le biais de sociétés spécialisées ou dans le cadre des terres traditionnelles. Et ces terres sont ensuite allouées à des groupes qui vont les gérer collectivement. Et c'est également le cas en Europe. Il y a effectivement de nombreux pays d'Europe où les terres sont des propriétés collectives sous un baron ou une famille noble et les exploitants louent ces terres aux propriétaires et les gèrent de manière collective. En d'autres termes, on retrouve ce phénomène partout dans le monde, y compris en Europe. Il y a donc ce principe collectif, notamment en ce qui concerne le foncier. Et voilà de quoi nous parlons ici lorsqu'on parle de droit communautaire et de droit collectif, puisqu'il s'agit essentiellement d'évoquer ici le foncier, l'occupation des terres, l'utilisation des terres également. Et il ne s'agit là pas d'un droit individuel. Voici l'explication donc derrière cette notion de droit collectif. En ce qui concerne les droits à la vie, il s'agit là notamment, enfin, il s'agit de droits absolument essentiels. Je pense qu'on pourrait peut-être libeller les choses de manière un peu différente en ce qui concerne ces droits, soit. Et pour ce qui est des droits de culte, c'est le dernier part, c'est la partie, c'est le 11, je crois, l'article 11 de la DDPA, où il est dit que les États doivent s'assurer que chacun puisse exercer sa religion sans discrimination. Mais même dans mon pays, où les religions africaines sont pleinement respectées et autorisées, il y a certaines pratiques religieuses qui vont à l'encontre du droit civil. On ne peut pas, par exemple, ou du droit pénal, on ne peut pas, par exemple, tuer quelqu'un au nom d'une religion. On ne peut pas non plus, au nom d'une religion ou d'une pratique religieuse, rompre les lois sanitaires, par exemple, dans un bâtiment donné. Il y a donc des limites qui s'imposent à tous les droits. Même si ces droits sont pleinement respectés, tout dépend de où on les pratique et à quel moment on les pratique. J'en veux pour exemple le fait qu'on ne puisse pas tuer une vache pour des raisons cultuelles dans un appartement. Il faut le faire le moment adéquat, dans le lieu adéquat. Et cela figure également dans la DDPA, et je pense que nous devrions utiliser des termes